Micro, microscopie, suite, suite, microscopie, suite. Édouard Zambo.
On se retrouve dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat autour de l'existence ou non en France d'un délit de solidarité. Est-il en d'autres termes possible de venir en aide aux étrangers en situation irrégulière sans risquer les foudres de la police d'abord, puis de la justice ensuite ? Comme nous vous l'avons rappelé dans la première moitié de cette émission, depuis le mois de février dernier, la polémique ne cesse de se développer entre les associations qui se considèrent harcelées, menacées dans leur liberté d'action, et le gouvernement qui nie avec la dernière énergie le fait que des bénévoles soient inquiétés et a fortiori condamnés. De l'émotion suscitée par des opérations de police en février 2009 à Marseille, puis à Calais, le débat dérape sur le terrain juridique et politique. Et en avril dernier, le Gisti invite ses sympathisants à se déclarer eux-mêmes coupables du délit de solidarité. 5500 personnes à travers la France répondent à cet appel et la polémique enfle entre les associations et le ministre de l'immigration Éric Besson. Stéphane Maugendre, le président du Gisti, revient sur cette polémique au micro d'Aline Leclerc.
Transporter des sans-papiers, bien sûr qu'on l'a fait. Héberger des sans-papiers, bien sûr qu'on l'a fait. En tant que citoyen, pour nous, c'est un devoir.
Nous décidons de faire une journée d'action, c'était, si mes souvenirs sont exacts, le 8 avril. Le matin même de cette journée d'action, Monsieur Besson, ministre de l'immigration, est interviewé à 8h du matin à France Inter et dit « Jamais personne n'a été poursuivi sur la base de cette disposition. »
France Inter, Nicolas Demorand, c'est le 7-10.
8 avril 2009.
Aujourd'hui, des citoyens français, 5500, vont s'accuser du délit d'aide au séjour de migrants, délit de solidarité. Que dites-vous ce matin à ces citoyens ?
Qu'il n'y a pas de délit de solidarité en France et que toutes celles et ceux qui, de bonne foi, aident un étranger en situation irrégulière doivent savoir qu'ils ne risquent rien. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. Personne en France, personne en 65 ans, n'a jamais été condamné pour avoir simplement, comme je le lis, hébergé, donné à manger, transporté en voiture en autostop un étranger en situation irrégulière.
Donc on décide de faire une recherche, on fait un travail de juriste et on trouve un certain nombre de décisions qui concernent des personnes qui ont été condamnées pour avoir aidé des sans-papiers. On les a classés année par année, on commence par 2008, mais bientôt il y en aura 2009.
En 2008, il y en a un certain nombre. Il y en a une première au tribunal correctionnel de Lille, donc condamnation 1 000 € d'amende avec sursis, tribunal de Limoges, 100 €
d'amende avec sursis. C'est pas des grosses condamnations. Là, Perpignan, 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Perpignan, 1 000 € d'amende avec sursis.
Donc, 1 000 € d'amende avec sursis pour avoir hébergé pendant 6 mois un ressortissant.
Pour avoir hébergé à son domicile pendant 6 mois un ressortissant marocain en situation irrégulière.
22 avril 2009.
Notre invité ce matin, Éric Besson.
Alors, vous avez vu ces listes qui circulent avec quand même des condamnations. Le 4 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Limoges condamne 2 personnes à 100 € d'amende avec sursis pour avoir hébergé un étranger en situation irrégulière.
Vous parlez là des listes dites du Gisti qu'il a publié hier soir.
D'information et de soutien des immigrés.
Je constate une chose simple. La première, c'est qu'ils avaient dit depuis 2 mois qu'ils apporteraient la preuve que, contrairement à ce que j'affirmais, des bénévoles humanitaires avaient pu être inquiétés simplement pour avoir hébergé, etc. La preuve est faite, dans leur propre liste, il n'y a aucun bénévole humanitaire. Deuxièmement, je le dis avec pondération, mais la crédibilité du Gisti en la matière, elle est quasiment nulle.
C'est son discours politique, c'est que le Gisti n'est pas crédible. Bon, nous, on n'a pas voulu trop répondre là-dessus. On a fait une réponse extrêmement directe, un tout petit communiqué en disant « bon ben, allez voir le travail qu'on fait ». Toutes ces décisions sont scannées et sont sur le site. Comme ça, les gens cliqueront sur la décision, pourront lire en format PDF et se feront eux-mêmes une opinion.
Je m'appelle Jean-Claude Lenoir de l'association Salam. Une fois, près de chez moi, il y a des migrants qui passaient, je leur ai donné du thé, il pleuvait à verse. Et puis quand ils sont sortis, il y a des policiers qui les ont arrêtés, etc. Bon, je suis un peu intervenu en me disant que c'était pas très sympa, puisqu'ils m'avaient vu rentrer chez moi avec les migrants et qu'ils les attendaient. Et du coup, ils m'ont embarqué au commissariat pour un contrôle d'identité. C'était en 2002, en fait. Ça m'a tellement choqué que je me suis de plus en plus engagé. Donc j'ai regardé plus près, en fait. Je dis, mince, si on fait ça devant un Français, devant un citoyen, comment ça se passe quand on n'est pas là, quoi? Dans une démocratie, on ne peut pas agir comme ça, quoi.
Vous avez eu d'autres fois où vous avez été comme ça arrêté ou confronté à la police?
Oui, oui, de nombreuses fois. En fait, il y a une traque des migrants, c'est évident, et c'est surtout ça qui est grave. Mais il y a aussi le même comportement vis-à-vis des bénévoles, et notamment les bénévoles qui parlent, en fait. Si vous le faites en cachette, discrètement, on vous laisse relativement tranquille. Par contre, si vous revendiquez ce que vous faites, la machine s'emballe, en fait, que ce soit pour l'hébergement, j'ai été condamné, hein, que ce soit pour de l'aide, etc. Alors là, c'est dernièrement pour des soi-disant outrage, bon, etc. La machine s'emballe vraiment parce que vous dérangez à ce moment-là.
Pourquoi vous avez été poursuivi, en fait? Alors, pour avoir hébergé les gens chez vous, vous avez été poursuivi pour quel chef d'accusation?
J'ai été... La première fois, c'était pour aidé des gens en situation irrégulière. J'avais aussi aidé à aller chercher des Western Union, au vu et au sud de tout le monde.
Donc, Western Union, c'est un peu cette banque qui permet aux migrants de communiquer avec leurs parents à l'étranger.
Voilà, c'est ça. C'est... Comme ils n'ont pas de compte, ils ne peuvent faire que cela. Et moi, j'y allais pour, avec eux pour retirer l'argent avec ma carte d'identité, au vu au sud de tout le monde, je le disais à haute voix. Et voilà, en plus, c'était des sommes très modiques qui n'avaient rien à voir avec des sommes qui seraient nécessaires pour le passage. 60, 80 euros, en fait, pour acheter le pain quand ils n'ont pas à manger, leur carte téléphonique pour téléphoner leur famille, quoi. C'était vraiment disproportionné.
Et on vous a poursuivi comme si vous participiez au réseau des passeurs?
Voilà, on est passé, moi je suis passé au tribunal avec 12 passeurs. Alors, était-il vraiment passeur? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de doutes, mais avec 12 passeurs, comme si on était vraiment une bande organisée, en fait. Alors, il faut quand même savoir que l'instruction a duré 2 ans, que j'étais privé de papier pendant 2 ans, que le procès a démarré à 9h du matin, il s'est fini à 5h du matin. C'est impossible d'être serein pour rendre la justice dans de telles conditions. Et finalement, j'étais condamné, mais sans peine, en fait. Dispensé de peine. Mais il y a quand même une condamnation.
Donc, ça veut dire que vous avez un casier judiciaire?
Ça veut dire que j'ai eu un casier judiciaire. Puis par la suite, après, par 2 fois, on m'a accusé d'outrage, alors que j'avais absolument rien dit. Une fois, j'étais condamné. J'ai fait appel, j'ai été condamné. Et cette deuxième fois et dernière fois, mais ça fait déjà beaucoup quand même pour un seul homme, cette fois-ci, j'ai été relaxé.
Mais vous avez l'impression que cette accusation d'outrage, il y a une facilité à recourir à l'outrage pour vous mener devant les tribunaux?
Oui, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence que c'est un moyen de pression, en fait. D'une part, parce que ça coûte en temps. C'est... D'abord, vous êtes mis en garde à vue. Après, vous devez vous défendre. Vous devez... C'est une pression. C'est un stress. C'est des soucis. Et puis, c'est beaucoup d'argent aussi. Hein, faut pas l'oublier. Et puis, ça fait peur aux autres aussi. Hein. Il faut donc penser que c'est aussi une atteinte au droit du militantisme, au droit à la citoyenneté. Quoi. C'est vraiment de la pression sur la tête des gens, en fait.
Des gardes à vue, vous en avez eu des gardes à vue sans suite?
Ah, des gardes à vue, j'en ai eu certainement une dizaine, en fait. Hein. Il suffisait que je passe près d'un lieu des migrants à un moment donné pour qu'on m'arrête et qu'on me demande ma carte d'identité, que j'avais pas forcément, si j'étais en vélo, etc., pour qu'on me mette une garde à vue. Quoi. Je veux dire, d'ailleurs, aujourd'hui, j'évite certains sites, j'évite où j'y vais avec des copains, en prenant plein de précautions d'usage, en fait. C'est vraiment un harcèlement pour empêcher les gens d'être militants, en fait.
Une garde à vue, ça se passe comment?
Ben, les gardes à vue, c'est extraordinaire aussi, comment c'est archaïque. Quoi. L'hygiène dans les cellules, d'ailleurs, est quand même très aléatoire. Et alors, au commissariat central de Calais, c'est déplorable. Quoi. Alors,
vous avez été fouillé?
Ah, fouillé, mis à nu, fouillé à corps des parties les plus intimes, alors que c'était vraiment pour des pécadilles, quoi. Mais c'est vraiment vouloir salir les gens, vouloir les abaisser plus bas que terre. Et je vous dis, dans un contexte de bruit, de saleté, de violence, quoi. Pas de violence physique directe. Hein,
c'est violence psychologique, alors.
Violence psychologique, on claque les portes sans arrêt, on ne sait pas parler, on crie, il court dans tous les sens. Enfin, c'est un harcèlement moral perpétuel.
Ça fait du traumatisme. C'est-à-dire que... Avant d'aller au procès, il faut être arrêté, interpellé par les services de police. Ensuite, il faut être placé en garde à vue. Éventuellement, il y a une perquisition. Ensuite, il y a le procureur de la République qui prend la décision, oui ou non, de vous poursuivre devant le tribunal. Donc, il y a plein d'affaires où ça a été jusque entre les mains du procureur de la République qui a dit « Oh ben non, c'est pas la peine ». On fait juste un rappel à la loi ou on décide de ne pas poursuivre.
On peut vous dire, tant qu'on n'est pas condamné finalement, est-ce que c'est vraiment grave d'aller au commissariat?
aller voir les lieux de garde à vue, aller voir l'ambiance. Et je peux vous dire que quelqu'un qui n'a jamais vécu une garde à vue, effectivement, il se rend pas bien compte. Celui qui a vécu une garde à vue, ne serait-ce même parfois qu'une convocation par les services de police en disant, sur le papier, marqué « Affaires vous concernant », parfois les gens, ils ont peur. Ils ont peur parce que tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Alors, on va aussi élargir la liste à tous les à côté, tous les aidants qui sont poursuivis, non pas sur la base de cet article de l'aide au séjour irrégulier, mais toutes les poursuites sur, soi-disant, les rébellions, les outrages, la diffamation, l'injure, l'entrave à la circulation d'un aéronef, c'est-à-dire toutes les personnes qui aident les sans-papiers, qui sont poursuivies, mais sur d'autres bases. Et on s'aperçoit que c'est de plus en plus courant.
D'après vous, quel intérêt aurait le ministère, quel intérêt ont les policiers à faire cette pression sur les aidants ?
Un étranger en situation irrégulière est scellé, sans aucun soutien de particuliers, d'associations, d'assistantes sociales. C'est une proie facile. Et puis quand il se fait arrêter, comme il n'est pas soutenu, il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'avocat qui est dépêché auprès de lui, etc., etc. Donc c'est une proie plus facile pour reconduire à la frontière.
Nous, on a commencé à faire les préparatifs du mariage, en fait. Et au bout de deux semaines, on a eu un appel téléphonique, en fait, de l'hôtel de police, qui nous demandait en fait de nous présenter le lendemain à la première heure. Moi, je m'y suis présentée. Mon ami n'était pas présent sur Dijon, donc n'a pas pu se présenter. Quand ils ont vu que je suis arrivée toute seule, ils ont appelé le procureur, qui a envoyé un fax tout de suite. De donner l'autorisation en fait de perquisitionner chez moi. Donc je m'appelle Jennifer Chary.
On vous soupçonne de mariage blanc ?
Je pense que ce qu'on me reproche surtout, c'est de ne pas avoir dénoncé mon futur époux qui était dans une situation irrégulière. Je pense que c'est ça ce qu'on me reproche plus qu'autre chose. Moi j'ai fait donc les 4 heures chez eux, ils m'ont posé des questions, savoir quelle sorte de sous-vêtements ils portaient, si on avait eu des rapports sexuels, enfin ce genre de questions quoi. Savoir aussi ce qu'on envisageait plus tard dans la vie, savoir si je connaissais sa famille, savoir s'il m'avait accepté, savoir s'il lui connaissait ma famille, enfin ce genre de questions. Je pense banal pour tout le monde, mais de là moi je suis repartie donc avec la comparution pour l'avoir en fait hébergé à la maison. Lui, le lundi matin, n'a pas pu se présenter puisqu'il avait dit qu'il serait là à 14h. À 9h, la police ne le voyant pas arriver, ils sont venus chez moi. Donc ne me trouvant pas à la maison, ils ont été chez un des témoins, ils l'ont trouvé chez le témoin. De là, garde à vue pendant 24h et puis centre de rétention après. Expulsion une semaine avant le mariage. Il est déjà expulsé, qu'est-ce qu'il va m'arriver de plus ? Plus rien maintenant.
Les policiers, quand ils vous ont entendu, ils vous ont dit on a des doutes parce que ça fait pas très longtemps que vous vivez ensemble.
Non, ils n'ont pas dit qu'il y avait des doutes. Hein. Ils ont juste dit qu'ils nous convoquaient pour avoir un complément d'enquête, en fait. Point.
Et donc vous êtes allé de bonne foi répondre à leurs
oui,
questions.
Oui, bien sûr, moi j'y étais. Je me suis dit, de toute façon, on n'a rien à cacher, donc j'y vais.
Mais à ce moment-là, vous, c'est à cette première convocation au commissariat
qu'on m'a donné mon rendez-vous, en fait, devant le juge.
Votre convocation devant un juge.
Voilà.
Qu'est-ce qui a marqué sur votre convocation ?
Je ne sais plus exactement dans les termes exacts. Je sais qu'on me reproche donc de l'avoir, d'avoir hébergé une personne en situation irrégulière et de lui avoir facilité la vie en France.
Cette affaire a finalement été classée sans suite il y a quelques semaines. Jennifer Chary, que vous venez d'entendre, n'a donc pas été condamnée par les tribunaux pour aide au séjour irrégulier. Précisons toutefois que son mari expulsé, lui, il y a plus de 6 mois, est encore au Maroc, pays où leur mariage a été célébré cet été. Comme quoi, et ce cas en atteste, on peut parfois être puni sans être condamné.
Les amours...
Jérôme Martinez, je suis délégué régional de la CIMAD pour l'Île-de-France.
Il y a un climat général qui s'est développé, qui donnait pas forcément lieu à des jugements et à des condamnations, mais à un climat général de pression policière et qui nous inquiétait très fortement et qui inquiétait évidemment les personnes de nos associations qui sont engagées à titre bénévole et qui s'inquiétaient de voir une forme de criminalisation de leur action.
Et vous, vous avez eu des bénévoles qui vous ont dit, mais moi je sais pas si je vais continuer, si c'est pour aller au finir en commissariat.
On a des gens qui nous ont dit effectivement, moi je suis bénévole, j'ai aussi une activité professionnelle à côté. Si on apprend que dans le cadre de mon action bénévole, je vais me retrouver confronté à des problèmes de police, ça va interroger aussi ma carrière professionnelle. Donc des gens qui pouvaient hésiter dans leur engagement à cause de ça, même si on n'a pas eu nous de cas avérés, mais il s'est trouvé que c'était un climat général et c'est ça qu'on a mis en avant. Et c'est là-dessus que Éric Besson ne répond pas, puisqu'il dit, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de condamnation. Le problème n'est pas tellement de savoir s'il y a des condamnations, c'est est-ce qu'il est normal que des personnes pour leur engagement soient menacées ou subissent des pressions dans leur action.
Donc vous avez été la CIMADE parmi d'autres associations au ministère rencontrer le ministre sur cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette réunion? Qu'est-ce qui s'est dit?
On a rencontré effectivement Éric Besson au mois de juin, puisqu'il a souhaité rencontrer toutes les associations qui avaient signé une pétition commune et une lettre commune pour demander un changement de la loi. Donc la demande était très clairement modifier cette loi pour éviter qu'il y ait cette possibilité pour la police de menacer des personnes dans leur engagement humanitaire. Donc c'est ce qu'on a exprimé au ministre. Sur lequel on a eu une réponse qui était intéressante, c'est-à-dire nous disant « oui, je suis prêt à faire évoluer, à modifier les textes là-dessus ». Bon, on était au mois de juin.
France Inter, 16 octobre 2009, 17-10.
Bienvenue dans Interactive. Notre invité depuis 8h20 est Éric Besson, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, secrétaire général adjoint de l'UMP. Au standard, Paul nous appelle de la région lyonnaise. Bonjour Paul et bienvenue.
Oui, bonjour Monsieur Demorand, bonjour Monsieur Besson.
Bonjour.
La dernière fois que vous êtes venu sur cette antenne, vous aviez promis, juré, qu'au grand jamais, les personnes qui aidaient les sans-papiers à avoir un semblant de dignité ne seraient jamais inquiétés par la police ou par la justice. Et quelques jours après, on a vu plusieurs reportages télévisés qui nous montraient les témoignages de personnes âgées qui avaient été mis en garde à vue, notamment pour avoir rechargé des téléphones portables. Je voulais savoir que vous, votre parole.
Merci Paul pour cette question. Éric Besson vous répond.
D'abord, je n'ai pas promis, juré, j'ai indiqué et je redis ce matin qu'au moment où nous parlons, jamais en France, depuis 1945, aucune personne n'a jamais été condamnée pour avoir simplement aidé en urgence une personne étrangère en situation irrégulière. Et donc ça se confirme, il y a parfois eu des interpellations, il y a même eu des jugements, pour l'instant aucun n'a jamais abouti à une condamnation. Par ailleurs, il faut dire les choses simplement. Si vous aidez, monsieur, un étranger en situation irrégulière et que vous le recevez, par exemple, 3 jours chez vous et que vous l'aidez, que vous lui donnez à manger, vous l'hébergez, etc., vous ne risquez strictement rien. Si vous le recevez 3 ans chez vous en sachant pertinemment qu'il est en situation irrégulière, oui, vous êtes passible du fameux, désormais fameux, article L622.1. Entre les deux, il y a une marge de manœuvre que je suis en train d'essayer d'explorer avec des associations pour voir où s'arrête exactement l'action humanitaire et où on peut être suspecté d'entrer
dans la chaîne
des passeurs.
Donc vous avez clarifié les choses, parce que là, le flou artistique ou législatif vous bénéficie. Donc il faut en tout cas clarifier les choses sur le plan des textes législatifs
nous
sortir du flou.
On est au mois d'octobre, rien n'a réellement changé, puisque la loi n'est toujours pas modifiée, qu'on n'a toujours pas d'engagement sur la nature de ces modifications, ni dans quelle échéance elles auront lieu, que pendant ce temps-là, il continue à y avoir des problèmes sur le terrain entre associations et services de police, mais aussi avec des personnes qui, à titre individuel, aidants, conjoints, enseignants, vont aider les sans-papiers. Donc la question continue à se poser, et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse.
Ça, c'est les cacahuètes fraîches. Ça, c'est fraîche. Ça, on peut les frire.
On peut pas les manger tout de suite.
Non, on peut manger comme ça aussi.
Qu'est-ce que c'est ici, en fait?
C'est une boutique spécialisée dans la vente des produits afro-antillais.
Donc là, on est au-dessus de l'épicerie, en fait. Il y a
petite salle de restaurant que vous allez bientôt ouvrir, c'est ça?
Oui, justement, nous sommes au-dessus de l'épicerie, de Exotic Food Service. Pour l'instant, le restaurant n'a pas encore de nom parce qu'on ne l'a pas baptisé. Et le restaurant n'a pas ouvert et ça a été ouvert pour l'occasion, pour soutenir notre frère José... José...
Schidlowski.
C'est pas facile à prononcer.
Schidlowski.
Oh mon Dieu.
Attends.
Nous, on l'appelle José le cinéaste. José.
Non,
José le cinéaste.
Schidlowski. Ce n'est pas ça qu'il dit, des fois, il dit José le plein.
Non. Il dit, vous êtes un ancien sans-papier, vous avez été régularisé dans le mouvement des travailleurs sans-papier.
J'ai été régularisé le 7 janvier 2009. Alors, je n'ai pas travaillé pendant 9 mois. Je n'ai pas eu de salaire pendant 9 mois. Mais j'ai eu tellement de soutien, les amis, les José.
Alors, on m'a dit justement, vous, vous dites que vous avez été soutenu. Pourquoi aujourd'hui, vous dites que vous êtes là pour soutenir José, le cinéaste, comme vous dites?
Justement, parce que José, je l'ai connu dans le mouvement des travailleurs sans papier. Aujourd'hui, s'il a des problèmes à cause de ces mêmes travailleurs sans papier, nous, nous avons le devoir et l'obligation de le soutenir.
Alors, José, le cinéaste.
José Schidlowski. Depuis 18 mois, donc, on travaille sur un film qui aborde la question des gens privés de papier en France.
On entend Madi qui dit qu'il est venu vous soutenir, après que vous l'ayez vous-même soutenu pendant leur mouvement de travailleurs sans papier. Qu'est-ce qui vous vaut aujourd'hui d'être soutenu?
Ce qui nous est arrivé, c'est que l'un des personnages de notre film savait qu'elle devenait expulsable si on lui refusait son titre de séjour. Donc, on l'a hébergée. Et donc, elle dépose son titre de séjour. Et en guise de cadeau pour ses 18 ans, la préfecture lui envoie une obligation de quitter le territoire. Donc, elle bascule d'un état légal à un état illégal alors qu'elle est en pleine scolarité. Et au mois d'août, la police des frontières est venue à notre domicile pour la chercher et l'expulser, donc, et pour me chercher en tant qu'aidant. Nous ne leur avons pas ouvert, ce qui est le droit de chacun, d'ailleurs, en dehors de réquisition du procureur. J'aurais parlé par la fenêtre, et donc je me suis enquis de l'objet de leur venue, de leur visite. Et eux sont énervés très rapidement et m'ont menacé de revenir, et réquisition au pas du procureur, et de m'emmener avec des menottes, je ne sais où.
Donc ce jour-là, ils repartent bredouille finalement, sans vous et sans la jeune femme qu'ils étaient venus chercher. Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Ensuite, je reçois début septembre, par lettre recommandée, une convocation à la police aux frontières, à laquelle je me rends après une petite négociation le 5 octobre, le temps d'organiser une campagne de presse pour alerter l'opinion justement sur le fait que le délit d'aidant, contrairement à ce qui est dit notamment par le ministre Besson, existe bel et bien. Ce qui m'a été confirmé lors de l'interrogatoire, puisque j'ai fait part comme des propos d'Éric Besson, ils m'ont dit, Éric Besson, bon, c'est très bien, mais nous, c'est la police, c'est autre chose, et la loi, c'est la loi.
C'est-à-dire que les policiers, eux, pendant l'interrogatoire, vous ont dit, le ministre peut faire des discours, mais nous, on applique la loi, et donc on continue à interpeller des aidants?
Oui, bien sûr. J'ai eu droit à deux interrogatoires successifs. Le premier interrogatoire, c'était en tant que témoin, et je devais témoigner des conditions de séjour de la jeune personne que nous hébergions. Et la seconde partie, c'était en tant que citoyen délicteux, j'avais à répondre de l'infraction à la loi que j'avais commise et que je revendiquais. Ils m'ont laissé donc partir librement, et maintenant c'est à la discrétion du procureur qui soit classe l'affaire, soit m'inculpe, mais pour cela il a tout le temps.
Donc là c'était il y a plus de 3 semaines, jusqu'ici vous n'avez pas eu d'informations par rapport à ça?
Non, aucune information. Car s'il y a une identité nationale, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. L'hospitalité fait partie de ma liberté d'accueillir qui je veux et de la fraternité la plus élémentaire. Et en ce sens-là, plus le débat est posé, plus l'opinion peut réfléchir à une loi qui est absolument absurde.
Qu'on abroge purement et simplement l'article 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. C'est le délit de solidarité qui soit abrogé. Monsieur le ministre de l'Immigration dit que cet article est indispensable pour lutter contre les filières. C'est faux juridiquement. C'est un autre article, qui est l'article qui est juste en dessous, qui vient dire, lorsque c'est commis en bande organisée, etc., etc., où là on vise véritablement les filières, les trafiquants,
de main-d'œuvre. C'est cet article-là, et celui-là, on ne veut pas qu'il soit abrogé. On n'est pas pour les filières organisées, bien évidemment. On est simplement pour que les dents X, qu'il n'y ait même plus possibilité de les interpeller. Or, cet article permet de les interpeller, et parfois de les condamner.
Je pense que c'est la loi qui est mal faite, et je revendique ce que je fais. Donc je pense que les lois sont désuètes, elles sont 45 notamment, donc dans un contexte totalement différent. Les hommes politiques doivent changer toutes ces lois, et donc notre rôle c'est de faire, si j'avais le courage, la volonté et la force, demain je referais la même chose de la même façon, pour que les choses changent.
Changer les choses pour les bénévoles, vous l'avez entendu, c'est abroger le fameux article L622-1. Le gouvernement s'était montré ouvert à la discussion, pourtant rien n'a encore abouti pour assurer la protection juridique des bénévoles et des proches de sans-papiers et leur donner l'assurance qu'ils ne seront pas assimilés aux passeurs. Car vous l'avez compris, hein, au-delà des condamnations rares, très rares et souvent assorties de dispenses de peine, ce sont les pressions qu'ils subissent que dénoncent les militants qui œuvrent à la défense des droits des sans-papiers. Merci aux bénévoles de l'association Salam de Calais, aux membres de la communauté d'Emmaüs de Pointe-Rouge à Marseille, à José Chidlowski et à Félicie Roblin pour le temps qu'ils ont accordé à Aline Leclerc. Merci à vous tous de votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, réactions ou questions sur notre adresse électronique microscopie@rfi.fr. Pour en savoir plus, rendez-vous, hein, comme d'habitude, sur la page de Microscopie sur le site de RFI. Dans quelques poignées de secondes, vous retrouvez maintenant l'ensemble des infos du monde grâce à un journal complet de la rédaction de RFI. Bonne semaine à tous. Au revoir.